Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59 et vous êtes bien sur RMC. Il fait très 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 chaud, Géraldine.
Oui, 61 départements sont en vigilance orange. Canicule, c'est les deux tiers du pays jusqu'au Finistère, jusqu'au bassin parisien, avec des températures qui vont être encore très élevées cet après-midi. On devrait atteindre les 40 degrés pour Bordeaux, pour Poitiers, les 39 à Toulouse, 38 pour Nantes, 37 à Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand ou encore Perpignan, 36 à La Rochelle, 35 à Paris, il fera 34 à Marseille, Montpellier, Nancy, 32 à Brest, 30 à Lille, avec beaucoup moins de vent près de la Méditerranée, c'est une bonne nouvelle, mais le vent Mistral Tramontane devrait reprendre à nouveau demain, avec des températures qui vont assez peu évoluer dans les prochains jours, mais une chaleur qui va durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.
C'était la météo sur RMC. Bonne journée.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'élection présidentielle se joue déjà aujourd'hui avec la décision de justice attendue cet après-midi dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Concrètement, Marine Le Pen va savoir aujourd'hui si elle peut ou pas se présenter à cette élection. Pendant ce temps, la France suffoque, 61 départements en alerte orange canicule. Ce matin, ça recommence. Et la France brûle aussi, même dans des départements pas du tout habitués comme l'Essonne qui est en alerte maximale incendie.
Il y aura un avant et un après 7 juillet au Rassemblement National.
Oui, parce que c'est aujourd'hui que la Cour d'appel de Paris va donc rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Autrement dit, c'est aujourd'hui que Marine Le Pen va savoir si, oui ou non, elle peut se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Sébastien Krebs, vous êtes le chef du service politique RMC en direct ce matin. La décision va tomber dans l'après-midi et ensuite vous nous dites que ça va aller très vite au Rassemblement National.
Oui, c'est Marine Le Pen elle-même qui a donné la consigne à ses troupes. Une fois la décision connue, la campagne doit commencer, pas le temps en somme d'épiloguer sur les juges. Voilà pourquoi elle veut annoncer dès ce soir sa décision aux 20h. Et son entourage le répète, elle ne prendra pas le moindre risque. Même en cas de flou, elle renoncera et passera immédiatement le flambeau à Jordan Bardella. Au RN, les deux scénarios sont écrits pour ce soir et pour les prochains jours. Certaines choses ont même été calées par Jordan Bardella et Marine Le Pen en tête à tête pour éviter les fuites. Une fois la décision des juges connue, ils se verront cet après-midi au siège du parti avant le 20h. Si elle est empêchée, lui restera silencieux au moins 24 heures, puis lancera sa campagne d'ici à la fin de la semaine. En revanche, si elle peut finalement se présenter, bien là, c'est le scénario rêvé pour elle. Un de ses proches jubile déjà. Ce serait le phénix qui renaît de ses cendres. Ça la boosterait. En attendant, c'est vertigineux pour elle comme pour lui, témoigne un cadre. Et au-delà du RN, en fait, c'est toute la classe politique qui retient son souffle aujourd'hui. Pour tous, ce 7 juillet est coché depuis des mois comme le réel premier jour de la campagne présidentielle.
Et alors, il y a un monde dans lequel Marine Le Pen peut se présenter à cette élection, même en cas de condamnation, mais le chemin semble assez étroit.
Oui, parce qu'une relaxe paraît peu probable. Marine Le Pen, en appel, n'a pas contesté les faits. Elle a plaidé plutôt la bonne foi en espérant une atténuation de sa condamnation. Alors, il faudra surveiller deux points essentiels cet après-midi. La peine d'inéligibilité, 5 ans requis. Il faudrait que les juges la ramènent à 2 ans maximum. Elle aurait ainsi fini de la purger avant le premier tour. Et puis, il faut éviter la prison ferme. À minima, la transformer en sursis pour échapper au bracelet électronique qui l'empêcherait de faire campagne librement. Et il faut encore ajouter une condition, que le parquet ne décide pas de se pourvoir en cassation pour contester la décision, ce qui repousserait encore l'échéance de plusieurs mois.
Et la réaction également du candidat des Républicains, Bruno Retailleau. Il sera mon invité à 8h30 dans le face-à-face.
Alors en attendant, le gouvernement se réunit aujourd'hui pour parler des finances publiques. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, convoque le comité d'alerte récemment créé. La première fois qu'il s'était réuni, c'était dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Et le gouvernement avait annoncé 6 milliards d'euros d'économies. Cette fois, il est question de revoir la prévision de croissance à la baisse. C'est dans ce contexte économique aussi que les salariés de RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité en France, alerte sur l'état de nos infrastructures, pas du tout adaptées, disent-ils, aux fortes chaleurs. Ils alertent précisément sur un danger grave et imminent. Alors ce matin, il y a du mieux sur le front des incendies. Le vent s'est calmé près de la Méditerranée, mais le feu n'est toujours pas fixé dans les Pyrénées-Orientales, où les flammes ont parcouru près de 5000 hectares de végétation depuis le week-end dernier, à l'ouest de Perpignan. On parle désormais de 12 000 habitants évacués dans le dernier bilan du préfet. Il y a un autre feu qui progresse encore là ce matin dans les montagnes Bretagne, de la Drôme, a dit. Il y a deux villages qui ont été évacués dans la soirée. Et alors, il y a ce matin, trois départements au niveau d'alerte le plus élevé pour les départs de feu. Le Vaucluse, les Deux-Sèvres, c'est déjà arrivé. Et alors, plus surprenant, mais l'Essonne. Écoutez, pourquoi ce département de l'Essonne avec le météorologue Patrick Marlière?
On attend sur ce département les températures peut-être les plus élevées de l'Île-de-France, 36 à 38 degrés. L'humidité qui est très basse, là elle était même inférieure à 20%. Et puis le troisième point, ce sont les vents qui vont souffler à plus de 40 km à l'heure. Comme l'Essonne a plus de 23% de son territoire en forêt, mais il y a aussi tous les travaux des champs. Le monde agricole est en pleine effervescence pour la récolte des blés, par exemple. Les conditions sont réunies pour que les moindres étincelles qui peuvent être produites par l'activité humaine pourraient déclencher elles-mêmes ces feux de forêt.
Et leur propagation est fortement influencée par la chaleur, confirme Météo France, qui a donc placé 61 départements en alerte orange. La canicule tisse sa toile, de plus en plus de régions sont concernées. Le répit aura été donc de courte durée, Géraldine Demory. Le scénario du pire est encore une fois en train de se confirmer.
Ouais, une canicule longue et intense qui se rapprochait de celle du mois de juin. C'est le scénario qui est maintenant privilégié. Alors, il reste encore beaucoup d'incertitudes, mais il est clair que le dôme de chaleur est bien installé sur le pays. Après plusieurs semaines déjà très chaudes, les sols secs, l'absence de vraies pauses favorise des températures encore plus élevées l'après-midi. Donc, dans les prochains jours, les températures devraient assez peu évoluer avec notamment les 40 degrés fréquemment atteints entre la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion. Ensuite, certains scénarios voient une intensification de la chaleur pour le week-end avec des pointes à plus de 43 degrés envisagées sur le sud-ouest. Ça va dépendre de la position exacte d'une goutte froide près de l'Espagne. Mais ce qui est sûr, c'est que la chaleur va durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.
Et c'est donc sous ces fortes chaleurs que seront annoncés, dévoilés les résultats du baccalauréat à partir de la fin de matinée pour la moitié des académies. C'est aujourd'hui que ces résultats vont tomber. Alors ceux qui en souffrent de la chaleur, plus précisément, ce sont les coureurs du Tour de France. Ils vont se lancer là tout à l'heure dans la quatrième étape de cette grande boucle longue de 182 km entre Carcassonne et Foix. Une des régions où il fait le plus chaud en ce moment. Et en gros, Kevin Morand, ils vont pédaler toute la journée sous une quarantaine de degrés.
Oui, le peloton a quitté l'Espagne hier et le directeur sportif de Decathlon CMA-CGM, Julien Jourdi, n'en revenait pas de la température.
Alors, je sais pas si mon compteur dans la voiture marchait, mais j'ai vu 46.
Et 38 degrés sont encore annoncés à Foix, ville arrivée cet après-midi. Mais les coureurs s'y sont préparés juste avant le tour, comme Baptiste Westhofer et Warren Barguil.
Là, pendant il y avait la dernière canicule, j'allais rouler aux heures où il faisait le plus chaud. Le grand public, faut pas faire ça, mais le corps humain, en fait, il a des capacités d'adaptation extraordinaires. Et en seulement 3-4 jours, t'es adapté à ça.
Limite, les vagues de chaleur, elles sont plus dures à la maison. Parce qu'on n'a pas une voiture derrière nous pour nous mettre de la glace et avoir des bidons frais.
Les équipes mettent donc tout en œuvre pour rafraîchir les coureurs avant, pendant et après l'étape.
En quantité de glace, ça peut monter jusqu'à 80 voire 100 kilos sur une journée.
Le médecin de la formation Total Energy, Paul Verrag.
Avant le départ de l'étape, l'objectif c'est de ne pas faire monter la température corporelle dans le bus avec la climatisation, des gilets de froid. Et après, pendant l'étape, beaucoup de bidons d'eau qui sont dans les voitures, des bas de glace. En post-étape, redescendre avec les bains froids.
Un protocole forte chaleur permettant des adaptations de la course peut être déclenché en fonction de la température, du taux d'humidité et du vent.
Et le maillot jaune est déjà sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar qui ne laisse aucune miette aux autres et qui a remporté la troisième étape hier aux Angles.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors la qualification, je vous la signale, dans la soirée de l'Espagne 1-0, c'était contre le Portugal. La qualification aussi cette nuit de la Belgique 4-1 contre les États-Unis. L'intervention de Donald Trump pour faire annuler un carton rouge n'a rien changé. Au contraire, ça a galvanisé les Belges. C'est ce que nous dit le milieu de terrain des Diables Rouges, Nicolas Raskin.
Ouais, bien sûr, ça a motivé le groupe. Il y a toujours une justice d'une façon ou d'une autre dans la vie. Et je pense que quand tu essayes de faire quelque chose, que tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'était quelque chose d'un peu particulier, je pense que ça te revient toujours un moment. Ouais, supplément d'âme de part au début du match par rapport à ça. Ça a donné le match que ça a donné aujourd'hui et maintenant on est très heureux et on va regarder vers le quart de finale.
Alors les trois pays hôtes sont désormais éliminés. Il y aura les deux derniers huitièmes de finale ce soir. Les Bleus préparent leur quart de jeudi, vous le savez, contre le Maroc dans un contexte de polémique. On vient de parler des propos racistes d'une sénatrice au Paraguay visant Kylian Mbappé. Le joueur les a condamnés, tout comme dans la foulée la FFF, la ministre des Sports. Emmanuel Macron, le président de la FIFA, la sénatrice a eu le culot de répondre là dans la nuit en demandant des excuses à Mbappé. Elle explique, et je vous jure que tout ça est vrai, qu'elle aime la France parce qu'elle a passé le dernier Noël à Courchevel et le nouvel an à Saint-Tropez.
Inouï. inouï. Enfin, je n'ai plus de mots, c'est absolument inouï. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, évidemment, vous réagissez au 32-16. C'était le journal de Quentin Vinet. 8h09, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a plus que 4 jours pour faire gagner votre entreprise, pour vous inscrire pour la 17e édition des trophées PME RMC BFM 2026. Vous êtes entrepreneur, vous dirigez une petite ou moyenne entreprise. C'est le moment de participer et de gagner peut-être jusqu'à 100 000 euros d'espace publicitaire sur le groupe RMC. Il y a des entreprises extraordinaires qui ont vu leur, qui ont pris leur élan grâce à ce concours des trophées PME RMC. Too Good To Go, Blablacar, C'est Qui le Patron. Voilà des entreprises qui ont vraiment bénéficié de la lumière aussi que RMC leur a apporté, qui ont gagné ce trophée PME. Comme eux, vous vous lancez dans la course et vous inscrivez votre PME dès maintenant sur trophée PME RMC BFM.fr, trophée PME RMC BFM.fr, et on sera très très fiers de vous soutenir. C'est les tout derniers jours pour vous inscrire. Et justement, on parle économie sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel, comment la canicule impacte nos comportements de consommateurs?
Alors on savait depuis la canicule de 2003 que la chaleur poussait les consommateurs à réduire leurs achats, puisqu'en août 2003, ils avaient baissé de 3% par rapport au mois de juillet. Mais c'était à peu près tout. À l'époque, on n'avait pas les outils dont on dispose aujourd'hui pour vraiment détailler le comportement de chacun. C'est ce que fait la société 10% en analysant des centaines de milliers de tickets de caisse. Donc, qu'est-ce qu'il y a dessus? À quelle heure vous passez? Etc. Et donc, les principales conclusions. Pour fuir la chaleur, les Français décalent leur course entre 7h et 11h et fuit le créneau 14h, 17h, fréquentation en hausse de plus 4% avant 11h, en baisse de 4% après 14h. Ils regroupent leur course pour sortir moins souvent. Ça, on l'avait déjà identifié il y a quelques semaines. Le nombre de tickets par foyer a baissé de 6% au cours des dernières semaines, alors que le panier médian, lui, progresse de 5%. Donc on y va moins souvent, mais on achète plus. Le caddie se rafraîchit, plus de glace, d'eau plate, mais attention, pas plus d'alcool. Les ventes de bière, par exemple, n'ont pas progressé à cause de la canicule. Et puis surtout, les Français éteignent leurs fourneaux. La part des plats froids a basculé de 38% à 56% des ventes. Tout ce qui suppose de cuisiner ou de boire chaud décroche. Donc les plats chauds, les sauces, le chocolat, les pâtes, les ingrédients pour pâtisserie, café, beurre, etc. Et conséquence intéressante aussi, c'est que la canicule efface la frontière de consommation entre le nord et le sud. Il y a une consommation qui était plutôt typée sud, généralement, plus de produits frais, de fruits, de légumes, etc. Et une consommation plutôt nord. Et ben là, toute la France se met à consommer à peu près la même chose.
Et surtout comme le sud. Le coup de chaud, il est aussi sur les prix. Hein.
Oui, parce que ce panier d'été avec plus de fruits et légumes, de boissons, dont les prix ont tendance à être sous pression pendant la saison, eh bien, il coûte environ 2% plus cher que le panier hors période de canicule. Comptez sur les marques pour adapter leur gamme, leur prix et leur livraison, surtout à ces périodes qui vont se renouveler de plus en plus souvent, parce qu'on a aussi constaté qu'il y avait beaucoup de ruptures de stock sur pas mal de produits. Donc,
ils n'avaient pas forcément anticipé, ils le feront davantage la prochaine fois.
Les grandes marques, elles ont regardé tout ça de près et qu'elles vont en tirer le meilleur.
Que se passe-t-il sur les prix à l'énergie? Ça continue à stagner ou pas?
Oui, alors le mot du jour, ce serait même légère hausse.
Oui.
On a pris 1 centime sur le gazole et sur le sans-plomb 95. On était à 1,89 ces derniers jours. On est aujourd'hui à 1,90. Le pétrole, quelques cents aussi. On remonte, on est à presque 72 dollars le baril, et puis la remontée du gaz, elle aussi, elle se confirme. On a pris 5 euros le mégawattheure en quelques jours.
Merci beaucoup Emmanuel, il est 8h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, il y aura le meilleur d'Arnaud Demanche. À 8h30, notez dès à présent que l'invité du face-à-face, ce sera le président des Républicains, candidat à l'élection présidentielle, Bruno Retailleau. Marine Le Pen ou Jordan Bardella, est-ce que ça change quelque chose pour lui? Puis c'est la première fois qu'il s'exprimera aussi depuis les appels du pied de Laurent Wauquiez pour qu'il renonce et qu'il soutienne Édouard Philippe. Donc ne manquez pas Bruno Retailleau sur RMC et BFM TV. Juste après 8h50, il y aura le choix de la rédaction. Mathieu.
Oui, notre reporter Julie Brault a pu assister en exclusivité à une opération importante de lutte contre le narcotrafic à Grenoble hier. Coup de filet qui a permis d'interpeller une dizaine de trafiquants. C'est le choix de la rédaction. Et puis les dernières infos de la Coupe du Monde sur le terrain et en dehors. C'est avec Virginie.
Restez bien avec nous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et c'est l'heure du meilleur d'Arnaud Demanche. Arnaud qui nous donnait ses bons plans pour gagner de l'argent, écoutez.
Amis de l'argent, bonjour.
Bonjour.
Ah oui, oui, bah oui, vous
pardon,
tous, vous
répondu,
tous
oui.
Dans
oui.
Ah oui, parce que si on écoute RMC.
Surtout, oui. Sachez que si vous avez peut-être tous de la thune qui vous attend sur le site internet Cyclades de la Caisse des dépôts qui permet de savoir si vous avez des sous qui vous attendent sur des comptes bancaires que vous avez oubliés.
Bon, alors, ce serait génial.
On met son nom dans le site.
Non, mais et c'est alors
11 euros. Oh.
Moi, j'ai eu 30 balles. Moi, j'ai eu 30 balles. En 2025, 164 millions d'euros ont été restitués. Donc, on tape son nom sur le site. C'est comme le loto.
Et vous avez, monsieur Béliard, 11 euros sur le livret A qu'a ouvert votre grand-mère à votre naissance. Félicitations.
Hey, 5 euros sur un livret A il y a 20 ans. Peut-être que vous avez un trésor de 5,50 euros qui dort sur un compte. Emmanuel Le Chypre, il va se régaler, Manu. Il en a tellement des comptes, il a dû en oublier.
Oh, je l'avais oublié, ce compte à la Banque Populaire. Oh,
un autre chez HSBC.
Oh,
un autre au Crédit Agricole.
Oh,
une assurance vie à la Banque Postale. En 2026, Manu, il va récupérer les 164 millions à lui tout seul.
Ouais.
Enfin, avec Edwige Chevrillon,
bien
sa copine de BFM Business, il va lui dire « Momon, je vais pouvoir agrandir la piscine et commander un millefeuille chez Cédric Grolet. »
Oh, choubidou, c'est formidable. Je suis nu dans le jacuzzi. Prends les frites de piscine et les canards en plastique.
J'arrive.
Bon requin de la finance, croque-moi toute crue, je suis un sushi.
Edwige, on t'embrasse.
On t'embrasse, Edwige.
Donald Trump se prépare à une attaque nucléaire sur le sol américain. On lui a posé la question, un avion prévu.
Ouais, en fait, alors, bien, je vais le faire. Je sens qu'on a mal dormi. Le débat de mercredi soir a laissé péter la question. Je vais le faire moi.
Je vais répéter la question.
En fait.
Si on veut payer le voyage, je veux bien y aller.
Donald Trump se prépare-t-il à une attaque nucléaire sur le sol américain? Parce qu'il y a un avion qui est prévu dans ce cas.
Oui, mais c'était surnommé... trop compliqué aussi comme relance. Compliqué. Pardon, Arnaud Demanche.
C'est un avion qui est surnommé l'avion de l'apocalypse et voilà. Il a été vu en train de faire des manœuvres.
L'avion de l'apocalypse.
Alors l'avion de l'apocalypse, c'est pas un vol Ryanair qui fait Beauvais-Gerba où vous êtes coincé entre Gilles Vernez et Abita Turner. Hein, l'avion de l'apocalypse.
C'est pas mal aussi, ça dit.
C'est pas loin.
Non, c'est bien aussi, mais là c'est un avion blindé qui est surnommé aussi l'avion du jugement dernier. Ça fait envie.
Oh là là.
Il doit servir de poste de commandement pour le président américain en cas d'attaque nucléaire. Alors admettons qu'il y ait une attaque nucléaire et que la planète soit détruite. Où est-ce qu'il va atterrir de toute façon? Ça le maintient en l'air le temps d'un plein, quoi. En tout cas, c'est pas rassurant. Et vous savez qu'en France, nous, on a le Ouigo de la fin du monde. Qui sert aussi de base à Emmanuel Macron en temps de crise. Je vais demander à l'armée de l'air de... Oh non, je capte même pas le Wi-Fi. Alors c'est la guerre mondiale. Bon, je vais aller au wagon-restaurant pour le briefing. Oh non, putain, c'est vrai, c'est un Ouigo. À seulement 350 euros le billet, il n'y a pas de wagon-bar. Oh, bah, c'est bête, alors.
C'est vraiment trop bête. J'avais beau l'avoir déjà entendu. Je ris et je re-ris. C'était Arnaud Demanche, il est 8h19.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et c'est l'heure, vous l'entendez, c'est l'heure de vous faire gagner vos vacances. Félicitations Cédric.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bah ça y est, félicitations, c'est gagné, c'est dans la poche.
Mais c'est super ça.
Oui, c'est super ça Cédric, bravo Cédric.
Eh ben merci à vous, merci à l'équipe, merci à tout le monde.
C'est trop bien, vous avez donc gagné vos vacances, votre séjour bel en bras. Vous faites quoi dans la vie Cédric?
Je travaille dans la distribution, dans une grande surface alimentaire.
Dans une grande surface alimentaire, vous ne souhaitez pas dire si c'est un Leclerc, Intermarché, ah, Auchan.
Je peux tout à fait le dire.
Vous y
allez.
C'est Intermarché.
Si vous m'autorisez, je peux le dire.
Vos collègues vont pouvoir vous féliciter ce matin. Cédric, vous êtes en Vendée, c'est ça?
Je suis en Vendée, c'est ça.
Et ben, vous allez donc pouvoir partir en vacances où vous voudrez en France. Il y a 45 destinations parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir. C'est mon petit moment speakerine, c'est mon petit moment un petit peu hôtesse. Vous avez donc remporté, Cédric, un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Bellambra s'occupe de tout, des enfants, des activités, des repas. Vous irez avec ou sans enfants d'ailleurs, vous?
Enfin, ils sont grands, ils ont une vingtaine d'années, donc après, c'est l'âge où ils veulent ou pas nous accompagner.
Voilà, on verra, mais peut-être que pour une fois, justement, ils seront bien contents de vous accompagner. En tout cas, on est très, très, très heureux de vous avoir gâté. Félicitations à vous, Cédric, et belle journée. Il est 8h21 sur RMC. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, président du parti Les Républicains. Bruno Retailleau qui répond donc à toutes mes questions et notamment, évidemment, il y en a une qui s'impose ce matin. Si c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ça change quoi pour lui donc à quelques heures de la décision qui sera rendue par le tribunal d'appel de Paris. Il est 8h21, à tout de suite sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, candidat LR. Vous êtes par ailleurs le président du parti Les Républicains. De très nombreuses questions à vous poser ce matin. Mais évidemment, la première, c'est ce qui concernera Marine Le Pen aujourd'hui. La Cour d'appel de Paris va rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Marine Le Pen ou Jordan Bardella, pour vous, ça change quoi ?
Ça ne change rien, c'est la justice qui va se prononcer. Elle a raison d'ailleurs de se prononcer tôt, plutôt que d'attendre quelques semaines, quelques mois, juste avant cette élection fatale, ultime, l'élection présidentielle. Pour moi, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que le RN ne sera pas en mesure de redresser la France. Je n'y crois pas du tout parce que ils sont les supporters de l'assistanat. Je pense que la France est en train de mourir d'un système social qui a dérivé. Je suis pour un système social qui protège notamment les plus fragiles, mais pas ceux qui vivent au crochet de la société. Et regardez, ils n'ont pas voté l'assurance, la réforme de l'assurance chômage, l'assurance de la retraite. Et c'est un parti girouette. Ils ont changé d'avis
sur
tout.
On va revenir sur le fond, mais sur le calendrier, vous le disiez, en effet, la justice a accéléré son calendrier de manière à pouvoir rendre sa décision à temps pour que Marine Le Pen ou Jordan Bardella puissent faire campagne. Le fait que ce soit une décision judiciaire qui aura des conséquences politiques. Les mots de Jordan Bardella qui disait hier soir, la Cour d'appel doit avoir en tête qu'elle va dans sa décision avoir le poids des conséquences politiques dans ce que sera prononcé. Et Marine Le Pen qui dit, cette décision peut contrecarrer le fonctionnement démocratique de notre pays. Est-ce que vous considérez que la justice est politique en rendant cette décision aujourd'hui?
Non, la justice ne doit avoir qu'une chose en tête. Marine Le Pen est-elle, oui ou non, coupable? C'est ce qu'on demande à la justice. Souvent, je suis monté au créneau pour dénoncer des syndicats, notamment de magistrats, qui étaient très politisés. Et je le cite, le syndicat de la magistrature. Vous vous souvenez, le mur des cons. La justice doit certes être indépendante, mais elle doit d'abord être impartiale. Et c'est ce qui explique sans doute cette partialité, parfois, que perçoivent les Français, ce lien distendu, ce lien de confiance qui a été brisé entre les citoyens et la justice.
La décision qui sera rendue aujourd'hui, pour vous, peut-elle être non politique?
Elle aura des conséquences politiques, mais elle peut ne pas être dans ses fondements, dans ses intentions politiques. C'est ce que je souhaite et c'est ce que j'espère. Et c'est désormais...
Vous faites confiance, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision? Vous estimez qu'il faut la respecter et pas se poser de questions?
Écoutez, non. Moi, je suis de ceux qui considèrent que, je l'avais fait d'ailleurs en première instance, que lorsque Marine Le Pen avait été condamnée à une exécution provisoire, qui contredisait d'ailleurs la présomption d'innocence. Je trouvais ridicule que cette décision de première instance...
Décision.
Donc, je me suis pas privé de dire ce que je pensais. Mais simplement, là, la Cour d'appel va devoir dire si, oui ou non, elle estime que Marine Le Pen est coupable de détournement de fonds publics.
Est-ce que vous entendez aussi ce que disent, j'avais ce matin, une auditrice, hôtesse de caisse à Cannes, qui disait « Moi, j'ai l'impression que c'est de l'acharnement parce que je considère que quand Marine Le Pen représente, disait-elle, plus de 30% dans les sondages et qu'une partie des Français veulent qu'elle soit candidate, c'est pas au juge de prendre cette décision. »
Non, mais le juge prend une décision sur la culpabilité, sur des faits. Si jamais on sentait dans la décision qu'il y avait autre chose que des faits qui devaient rentrer en ligne de compte, alors il faudrait la dénoncer. Mais je veux dire que la justice, enfin les hommes et les femmes politiques, pardon, ils ne sont ni en dessous des lois, ni au-dessus des lois.
Bruno Retailleau, on reparlera de la justice parce que je voudrais vous interroger aussi après les drames de Liana, après les drames de Louis. Mais du point de vue de la politique, vous avez reçu récemment des marques au moins d'inimitié, en tout cas de détournement de celui qui pourtant était vraiment censé être votre bras droit pendant longtemps, Laurent Wauquiez. Par son histoire, par les responsabilités qui ont été les siennes, Édouard Philippe peut incarner l'ordre et le sérieux permettant de redresser la France. Et à vous, semble-t-il, même s'il ne vous nomme pas, il dit « il faut savoir se retirer ». Ça vous fait rire ?
Non, ça me fait pas rire, mais ça m'a pas étonné plus que ça. Voilà, Laurent Wauquiez n'a jamais été mon bras droit. Vous savez, moi, je me suis engagé sur un chemin difficile, l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est pas une promenade de santé, c'est pas guinguette et flonflon, pas du tout. Vous avez droit chaque matin à votre bol d'huile de foie de morue, voilà. Et vous avez droit aux petites trahisons. Le problème de ce genre de déclaration, où il se contredit il y a quelques mois près d'ailleurs, puisque un an, il n'y avait pas de mots assez durs sur Édouard Philippe, et d'ailleurs il le trouvait que j'avais été trop macronisé quand j'étais ministre de l'Intérieur. Ce qui fait mal à la politique, c'est ces retournements de veste. C'est finalement dire une chose le matin et dire l'inverse le soir, parce que ça accrédite dans l'esprit des gens cette idée que dans la politique, tout est faux, est pourri.
Vous avez dit, Bruno Retailleau, je ne souhaite pas assez de mal à Édouard Philippe pour lui souhaiter le soutien de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire que c'est un boulet, en fait, Laurent Wauquiez, quoi.
Ah ben, en tout cas, ça n'a jamais été un bras droit, ça n'a jamais été une aide pour moi, non, ni un soutien d'ailleurs.
Il est toujours membre des LR ?
Oui, il est toujours membre des LR, mais.
Vous n'allez pas l'exclure
décision,
pour autant ?
Écoutez, je remettrai pas un jeton dans la machine. Moi, je suis engagé pour mon pays. Je pense que la France est en train de, est au bord du gouffre, en tout cas. Et je veux garder toute mon énergie pour redresser la France, redresser mon pays.
Le mais reste, c'est aussi
pour
l'argument
moi,
de Laurent
c'est
Wauquiez.
Anecdotique.
Cette question, quand même, de la multiplicité des candidatures. C'est-à-dire de dire, au fond, aujourd'hui, sur à peu près le même électorat, il y a Édouard Philippe et il y a vous. Si on élargit un peu, il y a aussi Gabriel Attal. Cette question-là, à la fin, si vous êtes tous les trois sur la ligne de départ, en effet, il y a peu de chances que vous n'ayez pas Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur l'affiche du deuxième tour.
Mais je vais vous dire, j'étais à Brest, j'étais à Aix, j'ai fait un meeting tout près de Marseille vendredi soir. Je suis sans doute un des candidats qui voit le plus de monde parce que je laboure le terrain. Croyez-moi, il n'y a aucune envie des Français d'avoir un match de second tour entre M. Mélenchon et M. Bardella ou Mme Le Pen. Aucune envie. Parce qu'ils sentent très bien que c'était...
Ils sentent très bien que ce serait le chaos.
Et par ailleurs, il n'y a aucune envie de reconduire celles et ceux qui ont gouverné pendant longtemps et qui ont appuyé la politique d'Emmanuel Macron pendant 10 ans. Aucune envie. Ils n'ont
pas
envie. Pour
vous, Édouard Philippe, c'est le macronisme.
Mais en tout cas, il aura de la peine à se décontaminer, évidemment. Et il sera sans cesse, à mon avis, rattaché à ce bilan-là.
Il y a cette phrase prononcée ce matin par Laurent Wauquiez, à l'automne, ceux qui ne sont pas les mieux placés doivent se retirer. Est-ce que ça, pour le coup, sur les règles du jeu, j'allais dire, vous êtes à peu près d'accord ?
Ah non, mais moi, je suis parti pour gagner. Et j'en suis de plus en plus persuadé.
D'accord.
Parce que j'offre la solution, j'offre le choix aux Français.
Donc il n'y a pas de,
d'une radicalité.
De revoyure, en quelque sorte, on se dit en automne.
Je mets sur la table des propositions qui sont radicales. Pourquoi? Parce que je pense que les vieilles idées, les vieilles solutions, les vieilles recettes, ça ne peut plus marcher. Donc il faut des solutions radicales. Je suis en même temps raisonnable. Je fais partie d'un parti de gouvernement. Bien. Donc j'offre le choix, justement, entre le chaos que serait le second tour entre M. Mélenchon et le RN, et puis la continuation par d'autres moyens, par d'autres figures, par procuration du macronisme.
Édouard Philippe devra clarifier ses positions, notamment sur la laïcité ou sur le régalien. Petit bémol donc que Laurent Wauquiez apporte ce matin à un éventuel soutien à Édouard Philippe, dont il disait la semaine dernière qu'il pouvait incarner l'ordre et le sérieux.
Mais c'est ce que je vous disais. Avec lui, vous pouvez même pas le croire, le contraire de ce qu'il dit. Vous voyez, la semaine dernière, tout était beau et superbe. Et là, maintenant, il dit pratiquement l'inverse. Non, tout ça, c'est anecdotique. Moi, je pense que... j'ai écouté d'ailleurs Édouard Philippe. Ce qu'on attend, on est tous d'accord.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, ton discours de dimanche ?
Écoutez, formellement, c'était très professionnel. On est tous d'accord sur un certain nombre de généralités. Refonder l'école, bien évidemment. La transition climatique, évidemment. S'adapter au réchauffement climatique, évidemment. Le fait aussi qu'il faille faire un certain nombre d'efforts et que ces efforts soient justes. Mais où sont les propositions ?
Je vais vous dire, Apolline de Malherbe, je ne laisserai pas cette campagne présidentielle, parce que pour moi, 2027, c'est la campagne et c'est l'élection de la dernière chance. Ce sera ou le sursaut ou le chaos. Et je ne la laisserai pas se faire escamoter vis-à-vis des Français. Pourquoi ? Et je m'explique. Il faut des propositions. On peut, dire un certain nombre de généralités, des abstractions, sur lesquelles encore
c'était
une fois...
C'était des généralités un peu de la part de...
Mais où sont les propositions ? Où sont les solutions ? Je pense que, pour éclairer les Français, c'est le respect, dans des moments qui sont des moments difficiles, encore une fois, la France est au bord du gouffre. Je pense qu'on leur doit la vérité. Et on leur doit des solutions, des propositions précises, chiffrées. C'est ce que je m'emploie à faire chaque jour. Et c'est projet contre projet, solution contre solution qu'ils devront trancher cette élection présidentielle.
On va rentrer dans le détail de vos propositions et notamment sur ce que vous dites, l'alerte sur les finances publiques. C'est aussi d'ailleurs l'expression utilisée désormais pour parler du comité qui va se tenir aujourd'hui. Mais j'entends bien donc que vous ne vous retirerez pas.
Non, mais je pars. Je suis parti et je porte un projet que aucun autre candidat ne porte.
Vous êtes parti dans la campagne, quoi.
Sur la prospérité, sur le régalien, il faudra changer de constitution, voilà.
Parce que je
un
pars,
point qui me distingue
d'Edouard Philippe. Je pars, quand je vous demande si vous vous retirerez, ça peut prêter à confusion. Non, vous êtes parti pour gagner, quoi.
Je suis parti et je vais gagner.
C'est dans
ce sens-là
qu'il faut l'entendre.
Bon. Et j'en suis absolument certain, je serai au second tour.
Bruno Retailleau, aujourd'hui, comité d'alerte sur les finances publiques et vous ne cessez de dire que c'est en effet la dernière chance, la dernière étape, l'ultime pour la France. François Bayrou, hier, disait l'année prochaine, la totalité de l'impôt sur le revenu ne suffira pas pour payer les intérêts de la dette. Lui aussi alerte. Le dernier comité d'alerte des finances publiques qui s'était tenu il y a quelques mois, avant celui de cet après-midi, avait accouché de 6 milliards supplémentaires d'économies. Combien de milliards d'économies faudra-t-il faire pour rentrer à nouveau dans les clous ?
Mais François Bayrou a parfaitement raison. La totalité, effectivement, de l'impôt sur le revenu est dévorée par le seul paiement des intérêts de la dette. Ça représente par jour, pour que les Français le comprennent bien, 210 millions d'euros par jour. C'est l'équivalent qu'on jette par la fenêtre du coût d'un hôpital local. Vous imaginez, cette bombe-là, elle va exploser. On ne sait pas s'il sera dans quelques mois ou dans quelques années, mais elle va exploser.
Sur quoi faut-il faire des économies, alors ?
Mais surtout. Surtout, mais d'abord en étant juste, vous voyez. J'entendais dans le discours cette idée qu'il faut faire, il faut exiger un effort des retraités. Moi, ce que je veux d'abord, en termes de justice, parce que dans notre modèle social qu'il va falloir refonder, c'est cette idée de justice. Aujourd'hui, ça n'est pas juste parce que ce sont toujours ceux qui payent de l'impôt, qui cotisent, qui payent toujours plus. Ce que moi je veux...
Vous ne ferez pas appel davantage aux retraités.
Ce que je veux, moi... Et avant de faire appel aux uns aux autres, à ceux qui ont travaillé toute une vie, c'est faire appel et c'est exiger de ceux qui ne travaillent pas, qui pourraient le faire, des efforts. Je plafonnerai à 70% du SMIC la totalité des prestations sociales pour qu'à chaque moment, il y ait un écart significatif entre le revenu de l'assistanat, de la solidarité et le revenu du travail.
Quand vous dites la totalité, est-ce que ça veut dire que si on touche à la fois le RSA et des allocations familiales,
les allocations familiales.
D'accord, c'est hors
allocation familiale. Mais pour la première fois, j'instaurerai ce plafond. Deuxième chose, par rapport à ceux qui cotisent, est-ce que vous trouvez normal que des Français qui cotisent puissent être moins bien remboursés qu'un étranger en situation clandestine qui, lui, bénéficiera de 100%, qui, lui, va donc...
Qui n'aura pas de reste à charge.
Et qui n'aura pas de reste à charge. Eh bien, ce que je veux, c'est que les étrangers qui viendront en France devront attendre 5 ans travailler et être là légalement pour commencer à toucher des aides sociales, etc.
Travailler 5 ans sans avoir la sécu. Ils auront quand même la sécu tout de suite.
Bien sûr, bien sûr, évidemment.
C'est juste
sur les aides sociales, ce qu'on appelle non contributives. Voilà. Donc c'est un changement de modèle que je veux. Moi, je veux que le travail paye. Le problème français aujourd'hui, c'est que le travail ne paye pas suffisamment parce que les gens qui travaillent portent toute la dépense publique et elle est pharaonique. Donc, je veux donner la possibilité aux Français d'avoir un 13e voire un 14e mois en travaillant un peu moins d'une demi-heure par jour. Voilà. Et
en plus,
évidemment, tous ceux qui diront qu'il faut travailler moins, nous enfoncerons comme on a déjà enfoncé la France, les socialistes nous ont fait cette belle promesse. Travaillez moins, vous vivrez mieux. Total, aujourd'hui, il n'y a jamais autant de pauvres en France et on est un pays en voie de tiers-mondisation. Et donc, il faudra faire des efforts, mais d'abord...
Vous considérez qu'on est un pays en voie de tiers-mondisation ?
Mais bien sûr. Regardez nos services publics. Ce qui est Et c'est la raison pour laquelle je parlais de justice. Ce qui rend fou les Français, c'est de voir que on est les champions du monde de l'impôt, de la dépense publique. Jamais la dépense publique n'a été aussi forte. Jamais on a autant cotisé, payé, et jamais les services publics ont été aussi fragilisés. Regardez les urgences, l'hôpital, regardez la justice, on en a parlé déjà dans l'affaire Viana et dans bien d'autres affaires. Regardez beaucoup d'autres, l'école aussi. L'école qui est devenue une machine à fabriquer des inégalités sociales. C'est en France où finalement le lien entre l'élève, la réussite de l'élève et la position sociale des parents est le plus étroit, resserré.
Vous dites, Bruno Retailleau, quand j'arriverai au pouvoir, je décréterai l'état d'urgence numérique. Ça veut dire quoi ça ?
Parce que je pense que aujourd'hui, il y a un basculement du monde. Alors, il y a des guerres dans le monde, mais par ailleurs, il y a l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, c'est sans doute la plus grande bataille technologique que l'histoire ait connue, et on est mal préparé. Et on est en train de devenir une colonie numérique américaine. Et moi, je ne veux ni d'un protectorat américain sur la France et l'Europe, ni non plus d'un protectorat d'ailleurs industriel de la Chine sur l'Europe et sur la France. Donc, il faut réagir.
Deux questions encore, Bruno Retailleau. Il y a eu cette marche blanche après la mort de Louis, ce jeune homme qui a été tabassé à mort et laissé pour mort alors qu'il était normalement protégé par l'aide sociale à l'enfance. Dans cette marche blanche, il y a un certain nombre de jeunes qui ont décidé de faire leur ce slogan pour la peine de mort. Comment vous réagissez quand vous entendez ça ? Et après la mort de Liana, on avait fait un forum sur BFM TV et on avait eu quelques parents qui disaient pratiquement qu'ils étaient tentés de se faire justice eux-mêmes et d'aller jusqu'à tuer un éventuel assassin ou violeur de leurs enfants.
C'est exactement ce que j'allais vous répondre, ce que vous me dites là. C'est-à-dire que on a l'excuse aujourd'hui de minorité, on a cultivé en France l'excuse sociale, l'impunité. Une justice trop laxiste. Pas nécessairement à cause des magistrats, mais à cause de nos lois. Et forcément, cette impunité, cette justice laxiste, elle appelle deux réactions. Soit on crée des milices pour s'autodéfendre, ça n'est pas possible, soit on veut à nouveau la peine de mort. Ce que moi je propose, c'est une autre politique pénale. Une politique pénale où on assumera la sanction.
Mais la peine de mort ?
Non. Ça ne change rien et j'y suis opposé depuis longtemps. En revanche, je veux que on ait des peines minimales. Dès qu'on touche un policier, un gendarme, un sapeur-pompier, c'est la casse-prison. Dès qu'un jeune commet un délit grave, ce sera des courtes peines de prison. On arrête cet écart énorme entre les peines encourues, les peines prononcées au tribunal et les peines qui sont réellement exécutées. Je supprimerai le juge d'application des peines. Les Français ne savent pas, mais en France, vous avez un drôle de système. Vous avez d'abord un juge au tribunal qui va donner une condamnation, il va prononcer une condamnation. Et puis derrière, il y a un autre juge qui s'appelle le juge d'application des peines qui va défaire ce que le premier juge a fait. Ça ne peut pas durer. Il faudra aussi construire, bien entendu, des prisons. Il faudra, et c'est un point très important, je soumettrai au peuple français, par la voie du référendum, justement cette grande question de la politique pénale qu'ils veulent. On rend en France la justice au nom du peuple français et c'est parfaitement naturel, démocratique, que ce soit le peuple français qui vote la politique avec pénale de son choix.
Avec ce référendum. Donc, un mot encore, Bruno Retailleau, vous avez peut-être vu ces propos d'une sénatrice paraguayenne qui a eu des propos sur Kylian Mbappé absolument inouïs. Elle parle d'un Camerounais issu de la colonisation qui ne sait même pas écrire. Je n'ai même pas de mots. Une femme méprisable et indigne de sa fonction, Kylian Mbappé est sorti de son silence et il a décidé de condamner ses propos. Comment vous réagissez ?
Il a eu raison et Mbappé a rendu fier beaucoup de Français du drapeau des Bleus, bien entendu, et de leur maillot. Ce que je voudrais dire à cette dame, c'est que la France est un modèle, le modèle républicain. Et dans ce modèle républicain, on n'est pas français par le sol, on n'est pas français par le sang, on est français par le cœur. On est français pas par la couleur de la peau, pas par la croyance, pas par ses origines, c'est parce qu'on aime la France. C'est ça le modèle républicain. C'est ce modèle-là que moi, je veux absolument porter très haut comme un étendard. Et je pense que l'assimilation à nos valeurs, il faut la remettre au cœur du débat public.
Merci Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle et président des Républicains. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Merci Apolline. À 8h47, le choix de la rédaction, Julie Brost à suivre et le mondial de Virginie avec les infos sur le terrain et en dehors. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h49 et vous êtes sur RMC, le mondial de Virginie. C'est avec vous, Virginie Fulpin. Bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, avec toutes les dernières infos sur le mondial. Le Portugal et les États-Unis sortis cette nuit. Mais avant cela, le choix de la rédaction. Avec vous, Julie Brault. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Vous êtes reporter au service police-justice d'RMC. 9 personnes placées en garde à vue à Grenoble hier matin dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic. Un vaste coup de filet pour lequel une centaine de forces de l'ordre étaient mobilisées. Parmi elles, les policiers de l'UIN, l'Unité d'Investigation Nationale, composée de policiers spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée. Julie, vous avez obtenu l'autorisation très rare de les accompagner sur le terrain.
Oui, et pour les suivre, la journée commence très tôt, 5h50 du matin. Une centaine de policiers lourdement armés se dispersent en silence dans un quartier sensible de Grenoble. Objectif, interpeller simultanément une dizaine de suspects liés à un vaste réseau de trafic de stupéfiants. Pour les plus dangereux d'entre eux, les policiers d'élite du RAID sont présents et juste derrière eux, 6 policiers de l'UIN venus expressément en renfort depuis Paris se répartissent dans différentes colonnes d'assaut. Mandy est leur chef de groupe.
Nous, on appelle ça une phase de pétage, parce qu'on pète, on pète des portes. Donc voilà, il faut aller le plus tôt possible. Normalement, à 6h, les gens dorment encore. Quand vous réveillez quelqu'un, vous cassez la porte. Vous rentrez avec une colonne de 10 fonctionnaires de police cagoulés, armés. Généralement, il n'y a pas d'opposition. Tant mieux. On est dans une cité à Grenoble qui est quand même assez dangereuse. Donc voilà, pour intervenir en sécurité, il nous faut beaucoup d'effectifs de police. Ça nous permet, nous, d'avoir, comment dire, un impact un peu plus important.
Mais les policiers de cette unité, ils ne sont pas là seulement pour casser des portes, Julie.
Oui, car depuis sa création en 2023, cette unité a été sollicitée par 95 villes partout en France qui ont demandé son soutien dans des dossiers de narcotrafic, de règlement de compte ou encore d'enlèvement et de séquestration. Un soutien pour réaliser des interpellations, des perquisitions et des gardes à vue, mais aussi pour mener des investigations poussées en amont, explique le commissaire Philippe Lopin, chef de l'UIN.
J'ai 36 enquêteurs au sein de l'UIN chargés de gérer des techniques spéciales d'enquête, des écoutes et toutes les techniques policières. Mais également, on se déplace pour aller faire des surveillances, des filatures. On se rend compte que sur certains territoires, ils n'ont pas le temps ou les moyens d'investiguer à 100% sur certains dossiers. Donc on aide nos collègues et on leur apporte un savoir-faire, mais surtout du monde, hein, pour essayer d'améliorer l'enquête, puisque plus on est nombreux, plus l'enquête est approfondie.
Mais alors justement, cette aide, elle est de plus en plus sollicitée par les villes qui tentent de faire face à la montée en puissance de la criminalité organisée.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre que ces affaires, elles demandent du temps, des ressources humaines, mais aussi beaucoup d'agilité, car les délinquants, notamment liés au trafic de stupéfiants, s'adaptent et se réinventent pour échapper aux forces de l'ordre, assure le commissaire divisionnaire Jordan Coubry, chargé de l'investigation sur l'agglomération grenobloise.
Il y a aussi l'intérêt, concrètement, d'avoir des têtes que nos délinquants ne connaissent pas. Et donc, ces collègues parisiens sont clairement les bienvenus parce qu'ils passent beaucoup plus inaperçus que d'autres collègues locaux qui finissent à force par être reconnus par les délinquants. Et donc, on va dire qu'avec l'UIN, on ratisse un peu plus large. On est d'autant plus proactif. On va monter des dossiers plus étoffés, cibler plus d'individus et être en capacité de pouvoir réaliser plus de dossiers à l'année.
Depuis le premier semestre, l'UIN a été engagé sur 56 dossiers différents, soit une hausse de 70% par rapport à la même période l'année dernière. Et aujourd'hui, ce sont les petites et les moyennes villes qui requièrent le plus son soutien.
Merci beaucoup Julie Brault pour cette immersion exclusive pour RMC. Julie, reporter police-justice, ici vous retrouvez cette enquête sur l'application RMC, bien sûr. L'Espagne et la Belgique rejoignent les quarts de finale de la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Et Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. Les Belges terrassent les États-Unis 4-1 et l'Espagne a battu le Portugal 1-0.
Ouais, le Portugal qui sort, c'est la fin d'une époque. Hein. Cristiano Ronaldo a disputé la dernière des 6 Coupes du Monde auxquelles il a participé. Alors, il n'a jamais remporté de mondial, mais quand même 3 titres, 2 Ligues des Nations et l'Euro 2016, on se souvient, face à la France en finale. C'est ce qu'il retient. Quand je suis arrivé, le Portugal n'avait jamais rien gagné. Avec moi, ces 3 titres, Cristiano Ronaldo ou l'art de la passe décisive. pour lui-même. Il était assez triste. Hein.
La Belgique, elle, se moque de Donald Trump pour fêter sa victoire contre les États-Unis.
Ouais, Romelu Lukaku a imité la fameuse danse du président américain pour fêter le quatrième et dernier but de la Belgique, victorieuse 4-1 des États-Unis, donc cette nuit. Et ensuite, c'est la presse belge qui enchaîne ce matin en titrant « Allô, Donald ?» Le président américain avait appelé Gianni Infantino pour demander un réexamen du carton rouge infligé à Balogun lors du match contre la Bosnie. Et le président de la FIFA s'est exécuté. L'attaquant américain a pu jouer cette nuit. Ça n'a rien changé. Il n'a pas marqué. Mais il y a bien eu une ingérence politique. L'UEFA, l'instance européenne, estime qu'une ligne rouge a été franchie et parle d'une décision de la FIFA inédite, incompréhensible et injustifiable. Même Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, se dit choqué. Bah oui, on peut le dire quand même. Il s'y connaît un peu en coup fourré. Hein.
Kylian Mbappé, soutenu de toutes parts après les attaques racistes d'une sénatrice paraguayenne.
La FIFA, la Fédération française, Emmanuel Macron, j'en passe. Hein, tout le monde a condamné les propos abjects de Céleste Amaria. La sénatrice paraguayenne reproche à Kylian Mbappé de ne pas avoir serré la main du gardien du Paraguay en fin de match et elle a prononcé des phrases racistes, scandaleuses, insupportables. Je ne vais pas les répéter ici. Kylian Mbappé lui a répondu parfaitement. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. La sénatrice a décidément tout pour plaire. Elle insiste en accusant Kylian Mbappé de sexisme parce qu'il lui a répondu. Bon, faudrait peut-être pas tout confondre. Je vois pas trop où est le sexisme là-dedans. Et elle exige maintenant des excuses. Donc, non, rien.
C'est un arbitre français qui va arbitrer le huitième de finale de l'Argentine-Égypte ce soir.
Oui, François Le Texier a été désigné avec ses deux assistants pour arbitrer le match. À votre avis, est-ce que ça fait plaisir aux Argentins? Voilà, bon, on a la réponse. Non, évidemment, hein, disons que les relations entre nos deux pays sur le foot sont pas au beau fixe depuis la finale 2022 et encore une fois des attaques racistes de la part de certains joueurs argentins vis-à-vis de l'équipe de France. Donc les médias argentins se méfient beaucoup plus de François Le Texier que de l'Égypte en face de Lionel Messi et de ses coéquipiers. La principale chaîne de télé sportive argentine argumente en disant que c'est lui qui a expulsé l'Argentin Nicolas Tagliafico qui joue à Lyon lors d'un match contre Monaco. Mais bon, vu sa faute, un tacle assassin, ça aurait été difficile de faire autrement, même si en ce moment, je crois comprendre que les cartons, c'est un peu compliqué.
L'Angleterre a du mal à digérer sa qualification pour les quarts de finale.
Alors, les Anglais ont battu le Mexique 3-2 et quand Harry Kane est arrivé en interview après le match à la télé anglaise, il s'est mis à parler comme ça. Voilà, il avait totalement perdu sa voix, peut-être parce qu'il a chanté trop fort avec les supporters anglais à la fin du match. Alors, vous reconnaissez Wonderwall qui est chanté à chaque fois après la victoire et Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, a réagi. Tu vois, Harry, c'est du boulot de chanter ce morceau.
Hein. Il est gonflé.
Ouais, il est gonflé. Mais bon, c'est toujours mieux pour Harry Kane que pour son pote Jordan Anderson. Lui, il était remplaçant, surexcité en fin de match et il a couru pour enjamber les panneaux publicitaires et aller voir les supporters. Il est tombé, il s'est fracturé le poignet. Non. Il rejouera pas de la Coupe du Monde. C'est vraiment la blessure la plus bête de ce mondial.
Ouais, hein. Peut-être. Bah, attendez, c'est pas fini.
Non, c'est
merci Virginie Philpin. Argentine-Égypte, c'est à 18h. Suisse-Colombie aussi, à 22h. Des matchs à suivre sur RMC, évidemment. Dans un instant, les GG, les grandes gueules avec Alain Marchal. Bonjour Alain.
Eh bien, avec nos grandes gueules, on reparlera bien sûr de la polémique autour de Kylian Mbappé. On doit tous faire bloc derrière Kylian Mbappé maintenant et nous-mêmes peut-être répondre à la sénatrice paraguayenne. On reviendra sur la course à la présidentielle. Jordan Bardella se dit serein. Bon, ça, c'est une chose, c'est logique, il peut pas dire autrement, mais est-ce qu'il est prêt, Jordan Bardella? Est-ce que finalement, il a les électeurs vraiment du RN derrière lui, si c'est lui qui doit être candidat? On en parlera dans les grandes gueules. On reviendra aussi sur un jeune homme qui m'a abordé à la sortie des locaux ici. Il a envoyé 300 CV à des entreprises pour trouver un stage cet été. Il a fait de belles études de commerce et de finance et il trouve pas de stage. 300 CV, aucune réponse. Donc, eh ben, on va s'en occuper. Il va même envoyer une petite vidéo. On va regarder sa vidéo et puis lancer un appel pour lui. Peut-être qu'on va lui trouver son stage. Voilà. Vous êtes avec les GG. À tout de suite jusqu'à midi.